Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Jean-Pierre Lacroix réitère l'urgence de mettre en œuvre la résolution 2773 qui souligne la nécessité de respecter l'intégrité territoriale de la RDC. Le chef des opérations de maintien de paix de l'ONU appelle à la fin de l'offensive du M23 au nord et au sud Kivu. Il s'est exprimé ainsi à Beni où il séjourne depuis hier. Naufrage d'un bateau dans le lac Tanganyika. Bilan provisoire, 4 morts, des blessés et des disparus. L'accident est survenu la nuit dernière vers le village Kimomo. L'embarcation s'est très heurtée à une grosse pierre. Et puis, l'invité de ce midi, Désiré Chaleur, chef de bureau du PAM dans le Grand Kassai, il fait la restitution de l'atelier organisé hier à Mbujimayi sur les réalisations du programme alimentaire mondial dans la province du Kassai oriental. Mais notez tout d'abord que la garde républicaine entame en ce moment un défilé militaire sur le boulevard Lumumba à Kinshasa avec l'arsenal de guerre flambant neuf. Des dizaines de chars de combat, des véhicules de transport de troupes et armes lourdes ont quitté l'aéroport international de Njili à destination de Kanchachi sous le regard de la population kinoise. Cette démonstration de force a perturbé la circulation sur le boulevard Lumumba, occasionnant des embouteillages monstres. Madame, Messieurs, bonjour. Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, séjourne à Beni au nord Kivu depuis hier. Il a profité de cette occasion pour insister sur l'importance de respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, alors que le groupe armé M23, soutenu par les forces rwandaises, contrôle plusieurs territoires dans l'est du pays. Jean-Pierre Lacroix réitère l'urgence de mettre en œuvre rapidement la résolution 2773 qui souligne cette nécessité. Reportage de Gisèle Cage rendu par Jude Mister Bilanda.
Au cours de sa visite à Beni, Jean-Pierre Lacroix a rencontré les autorités provinciales, les nouveaux commandants de la force de maintien de la paix de l'ONU, ainsi que le casque bleu de la MONUSCO déployé dans la région afin d'évaluer les derniers développements, a précisé les porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, lors d'un point de presse à New York. Face à la détérioration de la situation sécuritaire, Jean-Pierre Lacroix a réitéré l'urgence de mettre en œuvre rapidement la résolution 2773 qui souligne la nécessité de respecter l'intégrité territoriale de la RDC et appelle à la fin de l'offensive du M23 au nord Kivu et au sud Kivu. D'autre part, les HCR indiquent que le nombre des civils congolais fuyant les conflits continue d'augmenter. En seulement 2 semaines, 60 000 hommes, femmes et enfants ont fui la RDC vers le Burundi, certains ayant parcouru des centaines de kilomètres à pied en quête désespérée de sécurité. C'est samedi, le chef des opérations de paix se rendra à Entebbe en Ouganda pour rencontrer les collègues des forces de maintien de la paix qui ont été transférés des Goma les mois derniers.
La situation sécuritaire dans l'est de la RDC s'est invitée aussi à la réunion du Troïka politique tenue hier à Kinshasa, réunion à laquelle participait l'équipe pays du Fonds monétaire international FMI et présidée par le ministre des Finances, Doudou Fouambalikoundé. C'est dans le cadre du suivi des deux nouveaux programmes économiques et financiers, FEC et FRD, conclus avec le gouvernement en novembre 2024. Ces deux programmes ont été approuvés par le conseil d'administration du FMI le 15 janvier 2025 pour un montant total de près de 3 milliards de dollars. Des précisions avec Michel Kifindangoy.
Au cours de cette réunion, les experts des ministères de Finances et du Budget ont évalué avec l'équipe du FMI les engagements des parties prenantes afin d'assurer le bon déroulement du processus et de faciliter la validation ainsi que les décaissements associés. Dans un contexte marqué par le conflit à l'est de la RDC, la commission du FMI s'est dit prête à collaborer étroitement avec les représentants congolais pour analyser les répercussions de cette situation sur l'économie et les finances publiques. Le coordonnateur du comité technique de suivi et évaluation des réformes a précisé que cette mission inclura une évaluation spécifique des provinces sous occupation afin d'adapter le cadrage macroéconomique. Félicien Moulenda.
Étant donné le contexte actuel des guerres qui règnent dans le pays, ils veulent savoir les impacts d'abord sur l'économie, sur les finances publiques et quelles sont les mesures pour essayer de mitiger l'impact, par exemple, de la guerre sur les recettes.
Pour finir, Le ministre des Finances, Doudou Fouamba, a réaffirmé la volonté du gouvernement de la RDC d'assurer une mise en œuvre rigoureuse des deux nouveaux programmes conclus avec le FMI en s'appuyant sur les principes de la bonne gouvernance.
Entre-temps, au Nord Kivu, un tribunal militaire a condamné hier à la peine de mort 55 militaires des forces armées de la RDC pour des actes de pillage, de fuite devant l'ennemi et de violation des consignes. Le verdict a été rendu à Moussienene État, dans le territoire de Lubero, par le tribunal militaire garnison de Butembo. Ces sanctions visent à rétablir la discipline au sein des troupes engagées sur le terrain, a indiqué un officier supérieur des FARDC. Détail sur ce verdict avec Ronéline Thibonet.
Parmi les 63 militaires jugés en flagrance, 55 ont été reconnus coupables et condamnés à la peine capitale, principalement pour des faits d'indiscipline et de désertion face aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda selon les sources judiciaires. Le même procès qui s'est déroulé sur 5 jours a abouti à des condamnations plus légères pour d'autres accusés. Deux soldats ont été coupés de 2 ans de servitude pénale, un autre de 5 ans, tandis qu'un provenu a été acquitté. Le colonel Makazuka Emumba, porte-parole des opérations Sokola 1, présent à ses audiences foraines, a souligné l'importance de ces jugements pour le maintien de l'ordre au sein des FARDC. La discipline est la base de toute armée. Il n'y a pas de place pour l'indiscipline. Nous traquerons tous ceux qui abandonnent le front sans autorisation, qui fuit devant l'ennemi ou qui viole les consignes en pleine opération militaire, a-t-il martelé. Cette condamnation de masse n'est pas une première. Le 14 février 2025, 212 militaires de FARDC avaient également été condamnés à la peine capitale pour des crimes graves, dont meurtre, viol et tentative de meurtre commis à Bukavu.
Du côté du Grand Bandundu, le commandant des opérations Ngemba, entendez paix, de la 11e région militaire, Axe Kwamut Bagata, a échangé hier avec la population civile du village Mpuimba dans le territoire de Kwamut en proie à l'insécurité causée par la milice Mobondo. Ces échanges ont tourné autour du pardon et de la réconciliation entre les parties en conflit pour une cohabitation pacifique. Au cours de cette rencontre, le général de brigade Moyo Rabi a demandé aux habitants du village Mpuimba de cultiver le pardon et le vivre ensemble dans le but de ramener la paix dans ce coin du pays. Irène Boma.
Ces échanges entre l'armée et la population civile du territoire de Kwamut ont eu lieu précisément au village Mpuimba, situé à 18 km à l'est de la cité de Kwamut, chef-lieu de ces territoires. Le capitaine Anthony Mwalushai est le porte-parole des opérations Ngemba.
Les opérations Ngemba, c'est aussi les échanges entre la population et son armée. C'est dans cette optique que le commandant des opérations Ngemba, Axe Kwamut Bagata, a échangé avec la population civile. Le pardon et la réconciliation entre les parties en conflit était le sujet à l'ordre du jour. Le général des brigades Moyo Rabi Richard a demandé aux habitants de cultiver le sens du pardon et l'esprit de vivre ensemble. Nous allons ramener la paix dans l'espace Grand Bandundu, dans la commune de Maluku, dans les territoires de Kimvula, dans le Bas-Congo.
Message accueilli avec joie par la population venue en masse écouter pour la toute première fois dans l'histoire de ces villages. Un chef militaire lui a accordé l'occasion de s'exprimer. Ses habitants ont promis d'aller prêcher cette bonne nouvelle de la paix aux insurgés Mobondo qui se cachent encore dans des brousses. Il sied de souligner que pour encourager les relations civilo-militaires, l'unité mobile d'intervention rapide a consulté et soigné gratuitement les malades trouvés dans les villages Mpuimba.
Et puis, le mois de mars, traditionnellement dédié aux femmes, est cette année placé sous le signe du soutien aux forces armées à Beni. Les femmes de cette ville ont décidé de collecter des fonds pour appuyer l'effort de guerre et soutenir les FARDC ainsi que leurs alliés, les Wazalendo, engagés au front contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Cette résolution a été prise hier à Beni lors d'une assemblée préparatoire aux activités du mois de la femme qui vient de commencer. Pour Ruth Sabouni, chef du bureau genre, famille et enfants de la ville de Beni, cette initiative est une manière pour les femmes de manifester leur solidarité envers l'armée. Ruth Sabouni le dit au micro de Marc Marofimbo.
Nous, au niveau de Beni, on s'est dit qu'on ne va pas s'écarter à l'idée du gouvernement, mais aussi au contexte que nous sommes en train de vivre dans notre zone. Et c'est pour cela, ensemble avec les femmes, Lorsqu'on a échangé, on s'est dit que les actions que nous allons mener vont plus cadrer avec l'appui pour l'effort de guerre contre les atrocités que nous sommes en train de subir dans notre province. C'est pour cela que nous avons demandé à des différentes couches et les représentantes qui ont participé à cette réunion de faire large diffusion par rapport à ce que nous allons faire. Pour la journée du 8 mars, on n'aura pas de grandes activités à mener. Tout ce qu'on aura à récolter dans le sens du mois de la femme sera accordé aux autorités militaires dans le cadre d'appuyer l'effort de guerre pour que les militaires qui sont sur les lignes de front voient aussi que les femmes sont derrière nous, les femmes nous accompagnent.
Dans le même registre, les Congolais doivent réveiller le patriotisme qui s'endort en eux. Ce thème a fait l'objet d'une conférence débat organisée par l'Assemblée provinciale de la Tshopo hier à Kisangani, à l'intention de la population congolaise en général et les étudiants de l'Université de Kisangani en particulier. L'objectif poursuivi est notamment d'éveiller la conscience de l'élite congolaise afin d'intégrer l'armée nationale, ceci en vue d'un changement dans la lutte contre les envahisseurs et défendre l'intégrité territoriale du pays. Cette conférence a connu plusieurs orateurs, dont le commandant de la 31e région militaire, Jacques Moukonkolé. Reportage.
Plusieurs centaines d'étudiants, des scientifiques et des acteurs sociopolitiques ont pris part à cette conférence débat. Pour Mathéus Kanga, président de l'Assemblée provinciale de la Tshopo, l'élite congolaise doit se lever pour défendre la patrie.
Sans l'élite intellectuelle de l'armée, nous continuerons de subir les mêmes sorts. Vous avez suivi des exemples. Quand on a des avions de chasse, on a des drones, on a des armes sophistiquées qui sont manipulées par les étrangers, ce sera le plus grand danger pour notre nation. D'où il est important que l'élite puisse prendre conscience. Les autres sociétés du monde sont guidées par l'élite intellectuelle. Mais la société congolaise, l'élite se laisse guider par les communs des mortels. Il faudra que cette situation puisse changer.
Les participants à ces échanges saluent cette conférence. Ils promettent leur implication dans cette lutte pour la souveraineté de la RDC.
Une très belle initiative.
Et en intégrant l'armée, nous avons la possibilité et l'obligation de défendre notre patrie.
Je suis prêt à accompagner l'initiative de l'armée.
C'est arrivé vraiment à point nommé parce que l'éveil patriotique est indispensable en ce moment. Le contexte dans lequel nous nous trouvons exige une campagne suivie de l'éveil patriotique.
Cette conférence marque le début d'une série d'activités patriotiques initiées par l'Assemblée provinciale de la Tshopo, ceci pour mobiliser la population contre l'agression rwandaise. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, 4 enfants morts, quelques blessés et des disparus. Bilan provisoire du naufrage du bateau Mahajabu ya Mungu. Des sources sur place rapportent que le drame est survenu sur le lac Tanganyika dans la nuit de vendredi à ce samedi au niveau du village Kimomo, environ 30 kilomètres de la ville de Kalemie. La cause de l'accident, l'embarcation se serait heurtée à une grosse pierre se trouvant dans le lac, indiquent certaines sources. Paulin Munanga.
L'embarcation en provenance de Baraka à 90 km de la ville d'Uvira dans le sud Kivu se rendait dans la ville de Kalemie. Des témoins rapportent que parmi les passagers à bord du bot qui était surchargé, il y a des déplacés en provenance du nord et du sud Kivu fuyant la guerre ainsi que des militaires blessés. Témoignage du président du mouvement citoyen parlement Debout sans tabou. Nathan Mugisho se trouve sur les lieux du drame.
Sur place où nous sommes, à Kimomo, il y a des familles qui sont en train de pleurer parce qu'elles étaient embarquées dans ces bottes, mais elles ne parviennent pas à retrouver les leurs. Il y a une panique, une douleur qui se fait lire sur le visage de la population dans le village Kimomo. Nous avons initié sur place des contributions afin de trouver le carburant. Et nous avons fait appel aux pêcheurs qui sont des volontaires qui venaient de monter encore sur les lacs afin de rechercher les corps qui sont introuvables jusqu'à présent.
Pour l'instant, aucune réaction des autorités de la province du Tanganyika.
Sud Kivu, parlons de cette dotation du CICR à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. C'est pour faire face à l'afflux des blessés par armes. La remise a eu lieu hier et pour prévenir la rupture de la fourniture en eau potable dans la ville de Bukavu, le CICR a remis à la régie des eaux un générateur de 500 kVA. Le comité international de la Croix-Rouge aide également les habitants de Bukavu et ses environs à faire face aux défis humanitaires actuels en renforçant l'opérationnalité des services essentiels dans la régie des eaux. Détail avec Rachel Kessembangu.
Pour la régie des eaux, il s'agit d'un générateur de 500 kVA, de 10 000 litres de carburant et 18 tonnes de sulfate d'aluminium pour le traitement d'eau. Cette donation vise à renforcer la capacité de la régie des eaux à maintenir une distribution continue d'eau potable malgré la crise actuelle et même en cas de coupure d'électricité. Et pour l'hôpital général, la donation est constituée d'un générateur 330 kVA et 10 000 litres de carburant. Le CICR y a également monté deux tentes supplémentaires de 24 places, construit 4 toilettes et 2 douches d'urgence. Docteur Guy Moulingania, médecin directeur de l'hôpital général.
On est en train d'aménager le captage d'eau autour de 30 000 litres par jour, ce qui permettra d'offrir de l'eau à tous les malades de l'hôpital dans une certaine mesure. Je dois dire que cette donation arrive à point nommé, mais c'est aussi une expression de cette empathie, de cette résilience au niveau de nos communautés locales ici. En tout cas, toute notre gratitude pour CICR.
Signalons qu'à ce jour, le total de blessés par arme hospitalisés dans cette structure sanitaire est des 192 patients. La majorité provient de Bukavu, d'autres en provenance de Kalehe, Kabare, Walungu, mais également ceux transférés de Goma.
Dans l'actualité aussi, clôture hier à Kinshasa de l'atelier de renforcement des capacités des inspecteurs et commandants des grandes unités de la police sur le rôle de l'inspection générale IGPNC dans la promotion et la protection des droits humains au sein des unités et services de la police. Une occasion pour le commandant de l'IGPNC, Philemon Patience Mouchidiave, de recommander aux participants de répercuter de manière pérenne toutes les notions en lien avec la dignité humaine jusqu'au moins gradé des policiers. Détail dans ce reportage de Billy Van Lutumba.
Initiateur de ces recyclages, l'inspecteur général de la PNC Mouchidiab veut voir l'image de la police de la RDC se conformer à celle des autres nations où les droits de l'homme sont observés par les éléments de la police.
J'enjoins tous les inspecteurs à devenir les acteurs clés de la promotion et de la protection des droits humains lors des commissions de contrôle au sein des unités et services de la police. En vue de redorer l'image prestigieuse de notre corps sapé par le comportement pernicieux de certains policiers tarés. Au commandant des commissariats urbains et des groupes mobiles d'intervention, j'ai voulu votre participation à cet atelier en vue de vous exhorter à faire observer scrupuleusement les droits de l'homme dans vos différentes opérations.
Bienvenue Watsa est commandant du commissariat district de Lukunga qui intervient souvent sur terrain pour faire respecter la loi.
Un commandant c'est d'abord un instructeur, un formateur de son unité. Ce que nous avons appris ici, nous allons les transmettre à nos différentes unités, de sous-unités, pour que eux aussi à leur niveau puissent comprendre ce que c'est le droit de l'homme et comment les appliquer et les préserver sur le terrain.
Inspectrice à l'IGPNC, Mireille trouve très capitale cette formation.
L'inaction de l'inspection générale de la police compromettra sans nul doute la paix sociale en République démocratique du Congo, la cohésion nationale, le développement ainsi que la sécurité.
Ce recyclage terminé, il reste à voir comment chaque commandant d'unité pourra répercuter les acquis au sein de ses troupes.
Actualité internationale.
Nous sommes en Guinée. Un tribunal spécial condamne l'ancien premier ministre de la Guinée à 5 ans de prison après l'avoir reconnu coupable de corruption et de détournement des fonds publics. Ibrahima Kassori Fofana, c'est de lui qu'il s'agit, était premier ministre du gouvernement de l'ancien président Alpha Condé. Il doit également payer une amende de 2 milliards de francs guinéens, soit 230 000 dollars. Verdict rendu jeudi dans la capitale Conakry. Il est l'un des nombreux fonctionnaires de l'administration Condé poursuivis par la Cour de répression des infractions économiques et financières. Il a été Premier ministre de mai 2018 à septembre 2021 lorsque les militaires ont pris le pouvoir et il est détenu depuis avril 2022.
L'invité.
Le Programme alimentaire mondial PAM a organisé hier un atelier sur ses réalisations dans la province du Kasaï-Oriental. Il a également annoncé les perspectives pour 2025. Désiré Chaleur, chef de bureau du PAM dans le Grand Kasaï, en parle dans cet entretien avec Esther Ndalafina.
Bonjour Madame Désirée Chaleur Ouattat. Le PAM vient d'organiser une grande activité dans laquelle il parle de ses propres réalisations. Quelles sont ces réalisations-là, Madame?
Merci. Les réalisations du PAM au Kasaï Oriental, nous avons l'alimentation scolaire dans les territoires de Lopatapata, de Kabeaka, Mwanga et de Miabi. Nous avons la nutrition dans le territoire de Miabi et de Boudjimaï. ainsi que le projet sur la promotion de la sécurité alimentaire à Kabeakamwanga et Miabi.
Nous avons entendu au cours de cet atelier les membres du gouvernement provincial se plaindre par rapport à l'insuffisance de l'appui de PAM. Comment réagissez-vous par rapport à cela?
Et comme je le disais, le premier défi, c'est les ressources. N'est-ce pas? Nous savons que pour vraiment assurer la sécurité alimentaire dans la province, c'est d'abord le gouvernement provincial. Ensuite, nous, les humanitaires, et le PAM, qui a le mandat de la sécurité alimentaire, vient en appui. Et comme nous le savons, c'est que la sécurité alimentaire, c'est pas seulement une question de vivre. C'est une question de plusieurs facteurs qui concourent à la sécurité alimentaire. Donc nous, si on apporte les vivres ou bien les formations aux producteurs, on encadre, on fait la promotion de la sécurité alimentaire, il faudrait aussi que d'autres facteurs qui concourent à la sécurité alimentaire soient mis en œuvre. Mais n'étant pas dans notre mandat, on a besoin des autres acteurs, que ce soit humanitaire ou bien étatique, d'accompagner pour qu'on assure la sécurité alimentaire dans la province.
Les participants ont aussi souhaité que le PAM quitte de la phase de l'urgence vers la phase de développement. Est-ce que c'est possible présentement?
Je dirais que nous sommes déjà dans la phase de développement. C'est parce que peut-être les modalités, ou bien il y a une incompréhension, ou bien une insuffisance d'informations que nous allons continuer à donner, n'est-ce pas? Dans le Kasaï oriental, nous n'avons pas fait en 2024, nous n'allons pas le faire en 2025, n'est-ce pas, les distributions générales de vivres. Nous sommes en train de faire ici l'alimentation scolaire, qui n'est pas une urgence. Les élèves sont de la province, ils vont continuer dans la province. Et là, on a fait des jardins scolaires, n'est-ce pas? Nous avons fait des champs communautaires pour commencer à initier la pérennisation. Et aussi, le gouvernement a d'autres stratégies pour cette pérennisation. Donc, comme j'expliquais lors de l'atelier, la modalité de transfert, c'est-à-dire des vivres ou bien le cash, ce n'est pas de distribution générale parce que nous avons, par exemple, la protection des semences. Lorsque soit la FAO ou bien un autre partenaire ou bien le PAM même donne les semences, il faut que la communauté ou les petits producteurs qui n'ont pas assez de moyens pour qu'ils ne consomment pas ces semences-là, nous apportons des vivres ou bien du cash pour que eux ils trouvent la nourriture afin de ne pas consommer les semences.
Par rapport à vos activités dans la province du Kasaï oriental, quelles sont les difficultés auxquelles le PAM est confronté?
Les difficultés du PAM dans le Kasaï oriental, nous avons en premier lieu la limitation des ressources parce que comme nous l'avons présenté, disons, la province du Kasaï oriental, avec les études de l'EFSA et l'IPC, est toujours en phase 3 ou phase 4 dans certaines zones, ce qui est une phase de crise où, dans toute la province, nous devons intervenir. Mais comme on n'a pas assez de ressources, nous sommes obligés de faire des choix en fonction de certains critères que nous avons élaborés. L'autre difficulté, ce sont les routes. Les infrastructures routières sont dans un état qui est préoccupant pour nous parce que nos camions, pour venir livrer les vivres, c'est vraiment difficile. Et parfois, ils sont bloqués pendant des jours parce qu'il y a peut-être un autre camion qui est enlisé. Il faut attendre 2-3 jours, parfois des semaines.
Madame Désirée Chaleur, je vous remercie.
Merci.
La chef du bureau de PAM dans le Grand Kasaï répondait aux questions de Esther Ndalafina. Par ici prend fin ce journal, coordonné par Jules Mystère Bilanda, à la mise en onde Dieudonné Nyangasa. Merci d'avoir été des nôtres.